l'Amérique du Sud, ça a été vraiment une période de grosses découvertes. Je suis passée, on va dire, de vacancière à voyageuse. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à me dire qu'en fait, l'inconnu ou les imprévus, c'est plutôt chouette. Hein.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia De Santis et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et nous voici déjà fin juillet pour le dernier épisode de la saison 2 de De Vraie Vie. Et oui, je reviens en septembre avec de petites nouveautés, donc pour tout savoir, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, @devraievie, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous emmène tout de suite pour ma dernière conversation de cette saison avec Aurore. Donc on a enregistré cette conversation en avril, il me semble, quand Aurore était encore en voyage en Inde. Elle s'apprêtait à aller au Népal, mais depuis Aurore est rentrée en France du coup, puisque comme vous le savez, le Covid-19 est passé par là. Mais aujourd'hui, Aurore, c'est une vraie voyageuse. C'est vraiment la voyageuse comme on l'imagine, c'est-à-dire qu'elle accepte les changements, elle va pas réserver ses hébergements, elle se laisse vraiment porter par les rencontres. Mais Aurore n'a pas du tout été toujours comme ça, loin de là. Tout ça, en fait, Aurore l'a appris en voyageant et en osant ne pas écouter ses peurs. Avec Aurore, on a parlé de se laisser porter par des choix qui ne sont pas vraiment les siens, puis de tout envoyer valser, des peurs qui empêchent d'oser voyager et surtout de comment oser les dépasser, de suivre sa légende personnelle, de s'ouvrir aux autres, d'accepter de ne pas tout contrôler et même d'aimer ça, de comment elle a trouvé sa première mission de freelance qui lui a permis de poursuivre son voyage. Voilà, je suis sûre que tout comme moi, vous vous reconnaîtrez un petit peu dans l'histoire d'Aurore, la voyageuse intrépide. Alors je vous souhaite une très bonne écoute, je vous souhaite également un très bon mois d'août, de très belles vacances, j'espère que vous en avez prévu, que ce soit en France, en Europe, peut-être même dans le monde, mais la France est très 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 jolie, donc je vous invite à voyager en France. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous en septembre pour la nouvelle saison, à bientôt! Bonjour Aurore. Alors merci d'avoir accepté de partager ton expérience sur De Vraie Vie. Donc aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. J'aimerais que ce soit toi qui te présente, que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, qui tu es, etc.
Ok, pas de problème. Bah, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Pour me présenter, donc, je m'appelle Aurore, j'ai 30 ans. Je viens de Bretagne où j'ai vécu quasiment les 20 premières années de ma vie avant d'aller sur Paris pour finir mes études de droit et commencer à travailler. J'étais juriste et l'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an, j'ai décidé de tout quitter pour partir à l'aventure et pour voyager avec mon sac à dos toute seule.
Alors du coup, voilà, on va revenir un peu sur tes études, etc. Donc tu le disais, tu as fait un master de droit. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix d'études? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intriguait, voilà, ou c'est plutôt quelque chose qui était suggéré par l'entourage? Comment ça s'est passé?
Alors du coup, j'ai fait du droit, mais alors complètement par accident. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout prévue. En fait, j'étais vraiment pas une bonne élève quand j'étais au lycée, vraiment élève très moyenne, qui faisait juste en sorte d'atteindre, on va dire, le 10 sur 20 pour pouvoir passer au niveau supérieur. J'avais juste une idée en tête, c'était éventuellement d'être journaliste, comme ma maman. Et du coup, lorsque j'ai obtenu mon bac, j'ai passé en fait des entretiens et des concours et déposer des dossiers pour des IUT, des écoles, etc. Et j'ai pas été prise. Ça a été très très dur pour moi d'avoir ce contretemps-là. Et en fait, ma mère, qui également a fait des études de droit quand elle était jeune, avant de se réorienter vers le journalisme une fois diplômée, m'a dit, bah, écoute, moi j'ai appris énormément de choses en faisant du droit, donc tu vas faire du droit aussi. Et ensuite, tu réessayeras de passer des concours pour être journaliste. Donc, ça, c'est parti comme ça.
C'est vraiment en attendant de faire autre chose, quoi.
Exactement. En fait, ma mère m'avait dit, écoute, avec le droit, on a forcément la tête bien faite. Au pire, si tu changes d'avis, ben, tu pourras toujours être avocate, juge, etc. Donc, ça t'assurera d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire, d'avoir une bonne situation. Donc, voilà. Pour les parents, forcément, il y a certains types d'études. C'est un petit peu le Graal qu'on espère pour son enfant, en fait.
Ouais, puis c'est rassurant de se dire ok, voilà, elle aura forcément un travail, il y a des débouchés, donc au pire c'est pas, voilà, elle aura quelque chose quoi derrière.
Exactement, de partir sur un bon bagage universitaire. Et voilà. Et en fait, j'ai passé les années au fur et à mesure, enfin voilà, sans les redoubler, non sans quelques difficultés quand même, parce que bon, pour ceux qui sont passés par là, c'est quand même pas très simple. Donc ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait très souvent dans la douleur, mais avec une énorme joie d'apprendre, parce que c'est vrai qu'intellectuellement parlant, c'était très très stimulant en fait. On apprend énormément de choses, donc ça a été la contrepartie en fait. C'était pas tout le temps facile, mais avec quand même la satisfaction de comprendre beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure, sur la législation, de voir voilà son cerveau fonctionner. Donc du coup moi ça m'intéressait beaucoup parce que je suis une personne qui est très curieuse, donc je trouvais ça top d'apprendre comment fonctionnait la loi, le système législatif, le système judiciaire, les conventions internationales, la géopolitique, etc.
Donc finalement, c'était quelque chose qui était censé être en attendant, et finalement, tu as été jusqu'au bout puisque tu as fait un master, et puis tu es devenue juriste par la suite.
Exactement, tout à fait. En fait, je me suis même spécialisée en droit public, qui, quand on est juriste, c'est quand même un peu une voie un peu étrange, en fait, hein, parce que le droit public n'a pas beaucoup de succès, en fait, auprès des juristes, ou même des avocats de manière générale, parce que c'est quand même très administratif, c'est très politique, c'est très institutionnel. C'est comment fonctionne un peu l'État français. C'est sur les collectivités locales, le tribunal administratif, donc c'est vraiment tout ce qui concerne les relations entre l'administration française et les citoyens, de manière générale, s'il fallait résumer un petit peu ce qu'est le droit public. Du coup, j'ai choisi cette voie-là, on va dire, un peu atypique dans le juridique parce que j'étais hyper intéressée par la politique. Et du coup, je m'étais dit, ben, ou bien je serais juriste, ou bien je ferais du journalisme politique, parce que j'avais toujours un petit peu ça en tête. Hein. Mais je cherchais vraiment voilà, quelque chose qui restait assez stimulant, qui était un petit peu différent. Et au final, au fur et à mesure de mes recherches de stage et de premier emploi, j'ai fini effectivement en fait, par être juriste.
Ok. Et donc, tu as fait ça pas très longtemps, j'ai dit, parce qu'après, tu étais consultante. Comment ça se fait que tu as changé comme ça après, par la suite ?
Alors, en fait, c'était un petit peu la continuité parce que j'avais du coup une formation juridique parce qu'en 5 ans, en fait, du coup, on est considéré comme étant juriste. Mais j'avais pris une spécialisation, en fait, lors de ma dernière année qui était sur les finances publiques. Donc, du coup, j'avais la double casquette. Je pouvais faire et du juridique et de la finance publique qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans les entreprises ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et du coup, j'ai commencé lors de mon premier stage de fin d'études et mon premier boulot où j'ai fait vraiment que du juridique. J'étais juste juriste en droit public. Et ensuite, j'ai dû chercher un nouveau boulot parce que j'étais en CDD pour mon premier travail. Et j'ai postulé, mais alors absolument partout. Et j'ai pris le meilleur boulot que j'ai trouvé. En fait, ça s'est tout le temps passé comme ça. C'est-à-dire que mes Master 2, j'ai postulé dans tous les Master 2 possibles. Et j'ai pris le meilleur Master 2 où j'ai été prise. Le stage, j'ai postulé partout. J'ai pris le meilleur stage que j'ai trouvé. Et les boulots, ça a été pareil. Et à chaque fois, en fait, ça a été un peu des accidents, des hasards, en fait. Enfin, je ne visais pas une boîte en particulier. Je ne visais pas une branche en particulier. Je voulais juste avoir une bonne situation, avoir une bonne paye, avoir des bonnes missions. Mais j'avais vraiment mis aucun plan en tête, en fait.
Sans jamais te poser de questions, quoi, avant, sur ce que tu avais envie de faire, finalement. Tu t'es un peu laissé guider.
Mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand j'ai été diplômée. Bon, ben voilà, j'ai fait 5 ans d'études, je sais pas ce que je vais faire. C'était horrible, parce que moi, je pensais qu'à la fin des études, on savait ce qu'on allait faire, on avait un plan de carrière. C'était hyper perturbant.
Tout s'illumine.
Mais oui. Je pensais qu'on allait me dire, voilà, tu vas faire ça, ou non, mais moi, je sais que je suis faite pour ça, j'ai trouvé ma vocation, et j'en avais aucune idée, et donc j'ai tout un peu fait par hasard, en postulant comme ça, à gauche et à droite, en voyant qu'est-ce qui pourrait me plaire en entretien d'embauche. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai basculé dans les finances publiques et j'ai été consultante. C'était juste la continuité, j'avais besoin d'avoir mon background juridique, parce que c'est très utile, c'est complètement lié. Et c'est juste que, du coup, j'ai développé, en fait, une autre partie de mes compétences que j'avais appris à l'université.
Donc en décembre 2018, tu décides de tout quitter pour partir voyager pendant 8 mois. Ça a été quoi en fait ton déclic ? À quel moment tu t'es dit « voilà, je pars », j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Le déclic a été très long. Ça a été un très long processus. J'admire les gens qui décident du jour au lendemain, non mais là il faut que je m'en aille, ils prennent leur billet, ils partent 2 mois après. Moi je pense que le processus a pris bien 2-3 ans à aboutir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a un peu commencé à foutre le bordel dans ma vie, mais dans le bon sens, c'est que j'ai commencé à faire une thérapie quand j'avais 25 ans, parce que j'étais pas une personne très épanouie, j'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même, avec mon histoire personnelle, etc. Ça a été une grosse décision dans ma vie parce que ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que ma thérapie et ma thérapeute m'ont vraiment, en quelque sorte, sauvée, en fait, parce que je pense que si j'avais pas rencontré ma thérapeute, je sais pas dans quel état je serais. Je me souviens le jour où je l'ai appelée, Enfin, j'étais en larmes et je lui ai dit, il faut que tu viennes vous voir parce que là, j'en peux plus.
T'as attendu le dernier moment, quoi. Pour...
Mmh. Exactement. J'ai vraiment attendu. J'étais vraiment sur le point d'exploser. Et en fait, je reconnaissais un petit peu les signes, on va dire, avant-coureurs d'une grosse dépression qui se faufilait parce que j'avais déjà connu ça quand j'étais plus jeune. J'avais pas envie de retomber dedans, en fait. J'ai eu super peur de me remettre à aller très, très mal. Et du coup, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je me secoue. Il faut que je me sauve la vie parce que sinon, c'est reparti pour des années très, très noires et très, très sombres. Et du coup, j'ai vu cette thérapeute-là du coup, pendant 4 ans, jusqu'à mon départ en voyage. Ça a été vraiment très salvateur. Ça m'a vraiment aidée à comprendre, à accepter mon histoire et à me la réapproprier, en fait. Hein. C'est-à-dire que je suis vraiment passée à « il m'est arrivé ça » ou « c'est pas juste » ou « je vais pas bien à cause de ça », etc. Bah, grâce à tout ça, j'en suis ici aujourd'hui. Ça m'a vraiment aidée en fait, à voir les choses en fait, autrement, à changer de lunettes, comme on dit. Et le truc, c'est que ben, forcément, lorsqu'on entame en fait, un travail sur soi, c'est pas aussi facile qu'on le pense parce que du coup, ça fout vraiment le bordel dans ta vie. Parce que tu remets plein de choses en question, forcément. Parce qu'au fur et à mesure, tu apprends à te connaître, des traits de personnalité que tu pensais pour acquis ne le sont pas vraiment. Moi, apparemment, je pensais que j'étais une grande personne pessimiste ou négative, super exigeante. Je pensais que j'étais une nana qui était très agressive, que j'étais tout le temps en colère, que c'était normal, que j'étais faite pour être hyper organisée, une psychorigide, l'imprévu, c'était hors de question. Et en fait, y a plein de certitudes qui sautent. Et du coup, ça impacte beaucoup dans la vie personnelle, professionnelle, familiale. Au fil des mois, il y a des choses qui me paraissaient évidentes avant. Par exemple, tout ce qui était ma carrière. Moi, j'avais un plan de vie, mais qui était réglé à la baguette. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais dans une relation assez longue. Ben, je pensais qu'on allait finir par s'installer ensemble, qu'on allait prendre un appartement, puis se marier, puis avoir des enfants avant 35 ans, et que mon prochain boulot, ça serait être conseillère ministérielle au ministère des Finances. Tout était complètement réglé. Que j'allais avoir un loft à Paris, un Vespa et que je partirais en vacances à tel endroit. Le doute s'est vraiment installé au fur et à mesure de ma vie, surtout en fait. Et il a vraiment suffi que cette relation longue se termine pour que je perde mais alors absolument tous mes repères. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que mon boulot ne me plaisait plus.
Tout s'effondre en fait, un petit peu.
Exactement. En fait, je me suis rendu compte que tout tenait en fait grâce un peu à ces deux relations parce que la personne avec qui j'étais, on avait un peu les mêmes envies en fait d'un point de vue professionnel, matériel, sur l'avenir, etc. Et en fait, à partir du moment où cette personne est partie, je me suis pris un mur dans la figure. Et alors, lentement, je me suis mise à errer dans ma vie. C'est-à-dire à ne pas savoir pourquoi je faisais ce travail-là, à ne pas savoir pourquoi je restais dans un 22 mètres carrés qui me coûtait une fortune. Je partais déjà très souvent en vacances parce que j'avais la chance d'avoir quand même beaucoup de congés. Et à chaque fois que je rentrais, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je rentrais en France. Même si, pourtant, à l'époque, j'adorais Paris. J'ai vécu 8 ans à Paris. J'étais une fan inconditionnelle de Paris. Mais il y a un gros, gros malaise en fait, qui s'est installé dans ma vie de manière générale. Et j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait, que la machine était vraiment tombée en panne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année 2018, j'ai fait un voyage au Myanmar avec une de mes amies. Il s'est passé quelque chose de très très fort dans ce pays-là, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie que je pouvais être heureuse. C'est-à-dire que ce voyage était tellement... incroyable, que j'en pleurais d'émotion, en fait. J'en pleurais de joie. Les gens étaient tellement gentils, les paysages étaient tellement grandioses, il y avait une telle quiétude, une telle plénitude, en fait, dans ces jours que j'ai passés là-bas, que ça m'a bouleversée. Ça m'a vraiment bouleversée. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, c'est hors de question que je continue comme ça. Je ne peux pas attendre que quelque chose se passe dans ma vie. Je ne peux pas rester passive, je ne peux pas attendre qu'un truc cool me tombe dessus. Et du coup, j'ai décidé, en fait, pendant l'année, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à parler de ce voyage. Parce qu'en fait, ça faisait des années que je voulais faire quelque chose comme ça. J'en rêvais, en fait. J'ai une personne dans ma famille qui a beaucoup voyagé. Et depuis que je suis gamine, en fait, je regardais ses peintures, ses photos, les films qu'il faisait avec son caméscope. Mais alors, avec des yeux, écarquillés, en me disant, mais c'est incroyable qu'un monde comme ça existe en dehors de la France. Et je me suis rappelé que quand j'étais enfant, mon rêve, c'était d'être aventurière. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place dans ma tête, on va dire. Et c'est pile le moment où j'ai choisi de lire L'Alchimiste, forcément, de Paulo Coelho. Sinon, c'est pas drôle. Ce livre m'est tombé dessus, en fait.
Moi aussi, c'est mon livre déclic. C'est rigolo. Je me souviens exactement, c'est mon livre déclic qui a fait que je suis partie aussi, mon premier voyage. Donc lisez-le, si vous ne l'avez pas encore lu.
Exactement. Mais en fait, c'est dingue parce que... Il m'est tombé dans les mains, mais à ce moment-là, j'étais genre à la librairie et je l'ai vu et j'en avais entendu parler. Je me suis dit, bon, je vais le lire. Et l'histoire est pourtant est très simple. Ça a tellement résonné en moi. Et en fait, je me suis dit, ben, peut-être que c'est ça, en fait, moi, la légende personnelle. Je ne croyais pas du tout à cette notion-là. J'en avais pas vraiment entendu parler avant. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, peut-être besoin de voyager. Je porte peut-être ce voyage-là au fond de moi. Et j'ai vraiment eu l'impression que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait de le faire, qui m'appelait de le faire. Hein. Parce que si je ne faisais pas, j'allais rater ma vie. Et je me suis vraiment dit, c'est dingue parce que j'avais un super boulot. J'avais une super situation financière, j'avais tout ce dont j'avais besoin, etc. Et pourtant, j'avais la conviction que si je continuais comme ça, j'allais me planter. Et du coup, dans un premier temps, je voulais absolument essayer de partir avec quelqu'un, parce que moi, partir seule, c'était impossible, j'avais jamais voyagé seule de ma vie. Du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi, forcément, ben, personne n'était disponible, sinon c'est pas drôle.
Parce que c'était quoi ton plan? Donc t'es partie 8 mois, mais c'était 8 mois dès le début, ou alors ça s'est formé au fur et à mesure?
Non, alors en gros, ça s'est un peu calé sur des rendez-vous un petit peu familiaux, etc. Non, moi au départ, je disais à mes amis ou aux gens autour de moi, genre, salut, est-ce que tu veux venir faire un tour du monde avec moi?
Allez, viens.
Allez, je demandais ça, mais genre, comme si on demandait, viens, on va boire un café. Donc, forcément, j'ai trouvé personne pour me suivre. Et j'étais super énervée, j'étais vraiment en colère. Je me suis dit, pourquoi personne ne veut venir avec moi? Et en fait, après, j'ai été en colère contre moi. Je me suis dit, non, mais t'es encore en train d'attendre quelque chose des autres. Enfin, fais-le toute seule. Et du coup, vu que ça m'effrayait tellement, ça me paraissait mais tellement impossible à faire, je connaissais personne autour de moi qui l'avait fait. Donc j'avais pas d'inspiration, j'avais pas quelqu'un pour m'aider à me rassurer, pour me dire ça va bien se passer, c'est incroyable, pour me conseiller. Que du coup, je me suis dit bon, je vais faire les choses au fur et à mesure, je vais partir en vacances seule. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai réservé pour l'été 2018 2 semaines pour aller au Mexique, dans la partie qui est assez touristique, dans le sud-est, le Yucatan et le Quintana Roo. Et là, je me suis dit, tu pars là-bas, tu apprends l'espagnol avant. Donc, j'ai pris des cours d'espagnol pendant 3 mois avant parce que, à part le hola, una cerveza por favor, je ne savais. Je ne savais. Bon, je partais vraiment de zéro. Et du coup, je suis partie au Mexique, mais alors en ne me rendant absolument pas compte de ce que j'étais en train de faire. Et je suis juste partie toute seule avec mon espagnol tout frais en tête. Et je me suis vraiment dit, si ça se passe bien, à la rentrée, tu quittes ton boulot, tu prépares ton voyage, tu donnes ton préavis, si ça se passe bien. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Bon, à part une histoire de plein de vols qui ont été retardés, on m'a baladée au Canada, on a perdu mes bagages 2 fois. Je me suis tordue la cheville le dernier jour de mes vacances.
Ah oui, mais ça s'est bien passé.
Oui, mais pour moi, ça s'est bien passé. C'est bizarre de dire ça, mais pour moi, ça s'est bien passé. Je me suis dit, ah, ben, ça va, en fait, ça a été.
Bah oui, puisque tu t'en sors, en fait, et tu réalises que sur le moment, c'est pas drôle. Mais tu arrives à trouver des solutions pour contourner le problème et puis tu te remets debout, quoi. Et la vie continue et t'es libre.
Bah, exactement. Je suis rendu compte que c'était pas très grave. Par exemple, ma cheville, elle était tordue, mais j'enchaînais sur une semaine de vacances en Écosse avec une amie et j'ai fait des treks pendant une semaine avec une chemise foulée.
Mais rien ne t'arrête, quoi.
Voilà, exactement. Donc, au final, ça devait bien fonctionner. Et donc, du coup, j'ai mis mon plan en application dès que je suis rentrée non sans mal et non sans quelques insomnies. Parce que du coup, j'ai été voir ma responsable de l'époque, qui est une personne géniale, et je lui ai demandé une rupture conventionnelle, que elle voulait bien accepter, mais qui a été refusée ensuite par des niveaux supérieurs au niveau de la direction. Et donc là, ça a été un peu un coup dur pour moi, parce que pour moi, c'était quand même une sécurité pour mon retour, parce que j'avais aucun plan pour mon retour en France, si, mettons, je revenais. Donc ça veut dire que si je voulais faire une formation, si je voulais monter ma boîte, etc., j'avais aucun accompagnement, j'avais aucune aide. Donc ça voulait dire qu'il fallait vraiment, ça mettait un coup de pression financière assez important quand même. Donc ça a été un gros, gros coup dur pour moi, mais je me suis dit, il n'y a pas de raison pour que ça me décourage. Donc j'ai démissionné.
T'avais préparé un petit peu avant, parce qu'on parlait du côté financier, est-ce que t'avais préparé un peu avant, mettant de côté
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai économisé pendant pas mal d'années avant, mais pour un projet qui était complètement différent. En fait, je mettais de l'argent de côté parce que vu que j'étais dans une relation assez longue, je pensais éventuellement un jour me marier et acheter un appartement beaucoup trop cher à Paris. Enfin, j'ai économisé dans ce but-là. Et lorsque, au début de l'année 2018, j'ai décidé que je voulais partir faire un tour du monde, j'ai vu que j'avais quand même pas mal d'argent de côté. Donc, je me suis dit, c'est génial, j'ai déjà de l'argent pour voyager, en fait. Et du coup, pendant quand même 6 mois, 8 mois avant de partir, j'ai stoppé énormément de mes dépenses au quotidien. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins sortie, j'ai arrêté d'acheter des vêtements et j'ai mis quasiment le double de côté par rapport à ce que je faisais avant déjà, pour vraiment partir avec le maximum d'argent.
Donc en vivant à Paris, t'avais ton loyer quand même à payer. Tu peux nous donner à peu près le loyer que t'avais ou...
Oui, je payais un loyer de 700 euros pour un 22 mètres carrés.
Oh bah ça va.
Oui, franchement, non, mais vraiment, pour le 11e, c'était un peu une affaire, quand même.
Ouais, moi, je payais 860 pour 27. Donc, tu vois.
Oui, voilà. Pas... Donc, non, c'était hashtag bonne affaire de Parisien.
C'est ça. Voilà, l'idée, c'est de dire, effectivement, ça demande de faire des concessions, de moins sortir, de plus cuisiner, peut-être, voilà, de faire attention. Mais c'est possible, quoi, en vivant à Paris. Alors, effectivement, il faut un bon salaire.
Oui, j'avais un bon salaire, effectivement. Mais c'est vrai que, par exemple, cet appartement-là, j'ai fait le choix de le garder. C'était mon appartement d'étudiante. J'aurais pu prendre un appartement plus grand, par exemple. Et j'ai fait le choix d'être dans un appartement qui était trop petit pour moi. Il était vraiment trop petit. Et parce que je savais que ça me permettait de mettre de l'argent de côté. Tous les midis, je me suis mise à faire ma gamelle au travail pour dépenser moins d'argent. Avant, j'allais quasiment la moitié de la semaine au restaurant. J'ai réduit à une fois par semaine. Les plans pour le week-end, c'était pareil. Par exemple, des fois, quand mes amis me disaient le samedi soir, bon, on va aller au restaurant et après, pourquoi pas sortir en boîte ou aller boire un verre, je dis, bah non, c'est l'un ou l'autre. Mais moi, je ferais pas les deux. Avant, j'adorais bruncher. Il y a le brunch du dimanche, le sacro saint brunch du dimanche.
À 25 euros.
Voilà, exactement. Et ben, c'est passé tous les dimanches. Il y a peut-être un dimanche sur deux, voire un dimanche par mois, par exemple. Donc, j'ai vraiment réduit. Avant, j'avais un budget, mes vêtements, mais alors faramineux. Là, je me suis mise à même revendre mes vêtements, à vraiment attendre les soldes s'il fallait acheter quelque chose, à vraiment penser à chaque achat que je faisais. Je me faisais genre un benchmark. C'est-à-dire, avec quoi je peux porter ça? Est-ce que ça va vraiment me servir? Et clairement, à partir du moment où j'ai posé ma démission, j'étais dans la dernière ligne droite de mon voyage, mais là, j'ai même plus rien acheté, en fait, hormis les choses dont j'avais besoin pour mon voyage.
Ce que j'ai remarqué, dans mon expérience personnelle, c'est que j'avais tendance aussi à acheter pour compenser le fait que justement j'étais pas heureuse dans mon travail. C'était un peu pour me dire, allez, tiens le coup, voilà, tiens un petit cadeau, quoi, pour t'encourager à continuer. Et à partir du moment où tu sais que ça va s'arrêter, en fait, et que tu vas pouvoir faire un truc qui vraiment est exceptionnel, donc de voyager, partir, d'être libre, et ben j'ai plus du tout eu le besoin de me dire, bah tiens, il faut que je me récompense de... Parce que du coup, tu dis, ben ouais, c'est dur, mais je sais que ça va s'arrêter.
C'est ça, non mais complètement. Enfin, moi, je sais que j'adorais, par exemple, les vêtements. Enfin, je dépensais parfois, il y avait certains moments où je dépensais 500 euros par mois en vêtements, ça me semblait complètement normal. Et aujourd'hui, ça aurait plus de sens. Enfin, moi, là, je fais plus de shopping parce que je voyage maintenant. Il y a des petits moments où quand je vois des petites boutiques ou des magasins, je me suis dit, bon, il y a des choses sympas, je peux aller voir. Mais de là à combler, comme tu dis, un manque ou une insatisfaction ou un rythme de vie qui est peut-être pas adapté à ce dont on recherche vraiment, qui est trop stressant. Parce qu'au final, quand on est dans des grandes villes comme Paris, on travaille beaucoup et du coup, pour décompenser, on va dépenser beaucoup d'argent dans le matériel, dans les vêtements, dans les sorties. Et en fait, ben voilà, lundi, il faut qu'on retourne au travail jusqu'à ce qu'on décompense le week-end d'après, en fait. Donc, c'est un peu un cercle vicieux au final.
Alors du coup, revenons un peu sur ce voyage. Donc, t'es partie seule 8 mois.
Oui, quand j'étais rentrée du Mexique, j'ai mis tout mon plan en application et donc je n'ai pas obtenu ma rupture conventionnelle. Mais j'ai quand même persévéré, j'ai demandé ma démission, j'ai déposé mon préavis pour mon appartement, j'ai commencé à préparer un peu la liste des pays qui me faisaient envie. Et en fait, j'ai décidé de partir 8 mois parce que j'avais ma petite sœur qui allait se marier. Et du coup, j'avais 8 mois devant moi avant le mariage. Tout simplement. C'est pour ça que c'était parti sur 8 mois et parce que j'avais assez de budget pour voyager 8 mois. Ça s'est fait un petit peu comme ça. En fait, j'ai décidé de partir faire mon voyage en même temps que ma sœur nous a annoncé qu'elle allait se marier. Donc, c'est vraiment tombé en même moment. Mais en fait, c'est marrant parce que du coup, on a préparé nos deux projets respectifs en même temps, en quelque sorte. En fait. C'est-à-dire qu'elle a préparé son mariage et moi, je préparais mon voyage. Et on se disait, bon, ben voilà, on mettra tout ça en commun pour le mariage. Donc, du coup, pendant 3 mois, voilà, j'ai préparé un peu les idées d'itinéraire. J'ai regardé les visas, les vaccins, à peu près combien de temps je pouvais passer dans chaque pays, qu'est-ce que ça me plairait de faire, combien de budget il fallait que je prévoie à peu près dans chaque pays.
Organisée quand même.
Oui, ah, si, non, je suis hyper organisée. Donc, une psychorigide qui prépare son voyage, ça ne s'improvise pas. Hein. Du coup, il fallait que tout soit cadré. Je cherchais en même temps qu'est-ce que je pourrais faire après mon voyage. Est-ce que je revenais en France?
Ah ouais, tu préparais déjà l'après, quoi.
Ah oui, complètement. Pour moi, c'était hors de question de partir sans savoir ce que j'allais faire après. Donc là, le plan que j'avais trouvé, je voulais rester dans l'institutionnel, mais pas redevenir juriste. Mais je m'étais dit, ben, il y a plein de super projets institutionnels au Liban. Donc je vais aller à Beyrouth parce que c'est 4 heures d'avion pour faire Beyrouth-Paris. C'est au Moyen-Orient, ils parlent français et anglais. Il y a des super projets à faire là-bas. Je pourrais voyager dans le Moyen-Orient. Enfin voilà, j'avais fait un benchmark des pays où je pourrais m'installer après. Et donc j'avais jeté mon dévolu sur le Liban.
C'est ouf de préparer ton après-voyage alors que tu sais pas ce qui va se passer pendant ces 8 mois.
Exactement. En fait, c'était super bizarre parce que, en fait, je partais en me disant, ben voilà, là, je vais partir à l'aventure, je vais réaliser mon rêve, etc. Mais en même temps, je me rendais absolument pas compte de ce que j'étais en train de de faire en fait. J'étais tellement terrorisée par ce que j'étais en train de faire. J'ai été hyper stressée en fait pendant les 3 mois qui ont précédé mon départ, hein, au point de faire des crises d'angoisse, des insomnies. J'allais chez les médecins toutes les 2 semaines, ils disaient mais qu'est-ce qui vous arrive encore ? Et parce que j'avais tellement peur de tout lâcher, de lâcher ma situation, de lâcher mon appart, de partir de France, que quelque chose se passe mal. Je me dis, mais si je fais une erreur, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas réussir à me réinsérer après. En fait, j'étais terrorisée par ce que j'étais en train de faire, mais j'avais tellement envie de le faire que j'ai lutté, que je me suis accrochée en fait. Et le truc, c'est que ma famille comprenait pas trop pourquoi je faisais ça. Mes amis étaient contents pour moi, mais ils réalisaient pas trop ce que j'étais en train de faire. Du coup, je me suis sentie, mais alors hyper seule en fait, pour gérer mes angoisses et mes peurs. Je me suis sentie bien à partir du moment où j'étais dans l'avion le 28 décembre 2018. Mais jusqu'à ce moment-là, ça a été l'angoisse H24.
Oui, parce que tu imagines des scénarios catastrophes qui se réaliseront probablement jamais, mais t'anticipes des situations, quoi.
Non, en fait, c'est ça, en fait. C'est comme si mon mental faisait tout pour me faire changer d'avis, en fait. Alors que je savais qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie de le faire, j'en avais vraiment envie, etc. Mais ça a vraiment été une lutte intérieure très, très difficile.
Bah, sortir de la zone de confort, c'est quand même très difficile, hein, surtout pour un projet comme ça, quoi.
Exactement, surtout quand on est un peu quand même psychorigide, hyper organisé, etc. C'était super dur. C'est pour ça que d'ailleurs, mon premier pays où j'ai été, ça a été la Colombie. J'ai quand même tout réservé pour les 2 premières semaines du voyage. Comme si je partais en vacances.
Après, pourquoi pas, si ça te rassure, tu vois, si ça te permet d'arriver sereinement, te dire voilà, au début, tout est booké, comme ça je suis sûre, et puis après tu vois au fur et à mesure, quoi.
Moi, c'est ce que j'ai fait au final. Mais au début, j'avais vraiment besoin de faire ça parce que le saut dans l'inconnu me paraissait tellement gros, tellement grand et tellement vertigineux que j'ai tout fait quand même pour trouver un compromis et pour me rassurer, pour me dire non, mais ça va quand même bien se passer.
Et alors, comment ça s'est passé ? Donc, t'es partie seule 8 mois, Amérique du Sud plus Asie. C'est difficile à résumer, 8 mois, mais...
C'est super difficile de résumer 8 mois parce que dans chaque pays, chaque mois et sur chaque continent, il s'est passé plein de choses différentes. Mais l'Amérique du Sud, ça a été vraiment une période de grosses découvertes et du monde du voyage de manière générale. C'est-à-dire que je suis passée, on va dire, de vacancière à voyageuse déjà. Ça a été une période de kiff et d'expérience en fait en tout genre. C'est-à-dire que justement, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à me dire qu'en fait l'inconnu ou les imprévus c'est plutôt chouette, hein. C'est-à-dire que par exemple à la fin de mon voyage en Colombie où j'avais quand même tout préparé, tout prévu, je me suis dit bon maintenant je vais au Pérou, à partir de maintenant je réserve mon logement que 2-3 jours en avance maximum, ensuite quand je suis arrivée en Bolivie je fais maintenant je réserve que 24 heures en avance, alors à partir du Chili c'était freestyle total, c'est-à-dire que j'arrivais, je disais est-ce que vous avez une chambre pour moi, et ça a vraiment été plein de nouvelles expériences en fait, c'est-à-dire que j'ai découvert le couchsurfing, j'ai fait de l'autostop, j'ai fait toute la Patagonie Chili et Argentine en autostop. Ça, c'était génial. J'ai appris à faire du camping et à faire des treks. Je n'avais jamais monté une tente de ma vie avant. C'était très marrant. Et je suis partie faire des treks toute seule, en fait, quand j'étais en Patagonie. Alors que tout le monde me disait, mais non, mais fais pas ça seule. Enfin, c'est super dur. En plus, t'as l'air de rien y connaître. T'as l'air d'être vraiment nulle en camping. Pourquoi tu fais ça seule ? Et je me suis dit, non, mais il faut que j'essaye. Enfin, si je sais pas, j'apprendrai pas. Donc, et du coup, c'était à hurler de rire parce que la première fois, j'ai essayé de monter une tente, ça m'a pris 1 heure. Et au début, on aurait dit un petit pipi. C'était ridicule.
De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend.
Mais exactement. Et en fait, j'ai appris plein de trucs pendant ces 5 mois. C'est-à-dire plein de trucs sur moi, comme faire du camping, comme le fait que j'adorais dans la nature, alors que pourtant, j'avais grandi et vécu en ville. J'ai vraiment appris à lâcher prise, à parler avec absolument tout le monde.
En espagnol, du coup.
En espagnol, par exemple. Et on apprend que, en fait, quand on voyage seul, oui, effectivement, c'est cliché, tout le monde le dit, mais on n'est jamais vraiment seul, en fait. Le fait d'être seul, en fait, ça permet d'abaisser beaucoup de barrières, en fait. Parce que c'est vrai que les effets de groupe, ça peut dissuader beaucoup les voyageurs ou même les locaux, en fait, de venir te voir. Mais alors, être seul, et surtout une femme, moi, je me suis rendu compte que c'était très protecteur, en fait. Parce qu'avant de partir, on me disait beaucoup, non, mais partir seul en Amérique du Sud, quand c'est une femme, c'est pas une très bonne idée. Hein. Tu vas être très vulnérable, tu vas être une cible, tu vas te faire voler. Alors oui, on prend quelques précautions, mais en fait, moi, ça m'a incroyablement aidée. En fait, il y a encore quand même beaucoup de parties du monde où les gens sont très étonnés de voir une jeune femme seule voyager. Et du coup, moi, on venait tout le temps voir où est-ce que tu vas ? Ah bah attends, je t'emmène. Oui, le bus, c'est là-bas. Enfin, c'est-à-dire que dès que je demandais un renseignement, des fois, j'avais même pas besoin de demander de renseignement, on venait m'aider très facilement parce que les gens se méfient pas en fait d'une femme seule. Ils veulent vraiment l'aider, ils veulent essayer de lui faciliter la vie. Ils sont très curieux, donc du coup, ils viennent très facilement te parler. Et du coup, j'ai eu des conversations géniales avec toutes histoires de personnes que je rencontrais sur mon chemin, avec des voyageurs, des gens qui habitaient dans la ville ou que j'étais en train de visiter, enfin avec les personnels des hostels où j'allais. Et c'est génial parce qu'on apprend plein d'histoires différentes, on découvre les expériences de vie des autres, ça nous donne des idées pour nous-mêmes pour la suite. Et ça nous ouvre énormément l'esprit, en fait. Moi, il y avait des fois, par exemple, le couchsurfing ou l'autostop, je me suis lancée dedans parce que j'avais rencontré d'autres voyageurs qui m'avaient conseillé. Si je ne les avais pas rencontrés, je ne m'en serais pas sentie capable.
Oui, tu serais restée avec tes a priori, en fait.
Exactement, je serais encore restée un petit peu dans ma zone de confort. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé ça génial, c'est qu'au fil du voyage, on te met des gens sur ton chemin qui vont te raconter des histoires, vont te donner des encouragements, vont te dire... t'apprendre des choses sur toi-même que tu ne savais pas. Ils vont te pousser justement à aller encore plus loin dans ton expérience, aller encore plus loin dans ton voyage, en fait, enfin, expérimenter encore plus de choses. Et c'est ça qui était génial, parce que du coup, t'en viens vers les trucs complètement improbables. Moi, quand j'étais en Patagonie, à la fin, je pensais que c'était totalement faisable de faire 1500 km en stop, par exemple. Bon, j'ai échoué cette fois-ci, mais tout me paraissait, mais alors, complètement normal, en fait. Enfin, je me disais, au pire, je ne sais pas où est-ce que je dormirais. Je trouverais bien quelqu'un qui dort au milieu de nulle part. Enfin, je faisais du stop sur des routes où il n'y avait rien. Et vraiment, j'ai fait du stop parfois sur des routes où il n'y avait absolument rien. J'étais sur le bord de la route. J'attendais pendant une heure. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de lire. Je me mettais du vernis à ongles. J'attendais qu'une voiture passe, en fait.
T'as jamais eu peur pendant ce voyage?
Franchement, non. Peut-être une ou deux fois, mais globalement, non. Vraiment, la seule fois où j'ai eu, on va dire, un peu le cœur qui battait la chamade, c'est quand j'étais en Colombie. Je faisais une balade dans le nord de la Colombie à Minca, qui est dans la nature. On peut faire des petites randos dans la nature et j'étais toute seule. Et en fait, là, il y a des hommes qui construisaient une maison, qui ont commencé à me dire bonjour. Ils étaient genre 4 ou 5. Et en fait, ils ont commencé à quitter la maison qu'ils étaient en train de construire pour marcher avec moi. Ils disaient, tu vas où? Ils me posaient des questions, mais d'une manière assez abrupte. Ils disaient, non, mais je rentre à mon hostel parce que je sais pas, il me faisait un petit peu peur. Et en fait, ils ont marché avec moi pendant 10 minutes. Ça a été 10 minutes très très longues. Et je savais pas qu'est-ce qu'ils me voulaient, en fait. Je comprenais pas trop. Ils disaient, mais suis-nous. Ils voulaient que je les suive dans des raccourcis. Je fais, non, mais je vais prendre le chemin normal. Et en fait, ils ont juste voulu m'accompagner parce qu'eux rentraient au village, en fait. Enfin, ils ont dû me voir passer. Ils se sont dit, on va faire le chemin avec elles. Et en fait, je suis passée par un village. Ils m'ont dit au revoir et on en est resté là. J'ai été super rassurée, mais aucune idée de savoir quelles étaient leurs intentions, si quelque chose de mal aurait pu se produire ou pas, mais j'étais morte de trouille à ce moment-là. Très honnêtement, j'étais pas très bien. Ou des fois, j'avais des petites situations où, tu sais, les fameux cas où t'arrives en bus de nuit, ou bien très tard dans la nuit, ou bien très tôt le matin, et où ton hostel est à 2 ou 3 minutes à pied, mais t'arrives dans une gare hyper glauque. Du coup, je me disais, est-ce que je prends un taxi qui va me coûter très cher ou est-ce que j'essaie de faire des économies et je me tape un sprint jusqu'à mon hostel. Donc des fois, je me mettais dans des petites situations comme ça, pas très rassurantes. Mais globalement, ça s'est très, très bien passé. Enfin, j'ai pas eu du tout de sentiment d'insécurité. Au contraire, j'ai été agréablement surprise, surtout au niveau de l'Amérique du Sud, où on m'avait quand même beaucoup mise en garde. Mais très honnêtement, si on suit les consignes de sécurité, c'est-à-dire pas venir avec des bijoux, ne pas sortir son téléphone ou son appareil photo n'importe quand, ne pas se balader seul à 3h du matin dans un coin un peu bizarre, ça se passe bien en fait.
Est-ce que tu as remarqué à ce moment-là la différence entre toi avant le voyage et 4 ou 5 mois après, là, parce qu'il y a une différence énorme entre la horreur qui planifie tout, qui a des peurs et tout, et après celle qui, allez, on verra comment ça se passe, puis j'ai plus peur de rien presque. Parce qu'au moment-là, tu t'es rendu compte?
Si. Alors en fait, c'est marrant parce qu'il y avait des choses dont je me rendais compte assez rapidement. Par exemple, quand j'ai arrêté de réserver tous mes logements en avance et que j'ai vu que ça ne me posait pas de problème, j'étais « ça va, en fait, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais ». Quand je changeais mes plans, quand j'avais des imprévus, des fois tu rates ton bus ou des fois tu changes d'avis, des fois il y a un truc qui ne se passe pas comme tu l'aurais voulu. Et avant, je l'aurais très très mal vécu. Avant, moi, les changements de plans, j'avais horreur de ça. Je réagissais très très mal. Et là, je m'en fichais, complètement. Mais alors, c'était vraiment pas un souci. Et du coup, j'étais agréablement surprise. Et il y a des choses, quand j'ai fait les trekking, par exemple, quand je finissais mes trekking, et je pense notamment à celui que j'ai fait dans le parc au sud du Chili, à Torres del Paine, où j'ai vraiment fait mes 5 jours de trekking toute seule en autonomie. Je savais pas ce que j'allais faire, en fait, là-bas. Enfin, je me suis dit, je vais juste le faire. Et je me suis dit, mince, j'ai fait ça quand même. Il y avait des petites choses comme ça au quotidien dont je me rendais compte. Et il y a des choses dont je me rendais compte peut-être quelques semaines ou quelques mois après. Dans la manière de penser, dans la manière de réagir. Les rencontres que je faisais commençaient à être un petit peu différentes. Les sujets de conversation. Il y a des choses qui te sautent aux yeux et il y a des évolutions qui prennent un petit peu plus de temps. Comme si elles avaient besoin quand même de macérer un petit peu plus. Le process se demandait un peu plus de temps pour s'en rendre compte, en fait. Mais si, il y a des choses dont on se rend compte tout de suite parce que voyager, en fait, c'est apprendre de nouvelles choses tous les jours, en fait. C'est une nouvelle expérience chaque jour qu'on va vivre. forcément, il y a des choses quand même dont on peut se rendre compte quand même assez rapidement et rien n'est permanent. C'est-à-dire que ça évolue tout le temps. Là, ça fait quand même un peu plus d'un an que je voyage. Je suis encore étonnée de voir les évolutions. En fait. C'est jamais fini. C'est-à-dire que quand je suis rentrée en France après mes 8 mois, j'ai genre waouh, j'ai fait tout ce chemin dans le monde et par rapport à moi. Mais en fait, là, quand je regarde ces 6 derniers mois, je fais genre waouh, j'ai continué encore à faire tout ce chemin. C'est sans fin en fait.
Mais c'est dingue comme on grandit énormément en quelques mois de voyage, mais 1000 fois plus qu'en des années en restant au même endroit, quoi.
Complètement. C'est un gros accélérateur de vie, en fait. Et sur soi, et sur les autres, parce que forcément, on apprend beaucoup de choses sur soi, mais on apprend beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure. Et ouais, il y a des émotions dont on n'était peut-être pas habitué à ressentir avant. Par exemple, la confiance en soi, la plénitude. Enfin, moi, il y avait des moments où je me sentais hyper en paix avec ma vie, en fait. C'est vraiment, tu te lèves le matin, tu as le sourire, tu sens que tu as beaucoup de gratitude pour ta vie, tu te dis, oh là là, mais j'ai vraiment la chance d'être ici, en fait. C'est des pensées comme ça que tu n'aurais pas eu avant.
Alors, maintenant, on va parler du retour. Au bout d'un moment, t'es rentrée en France pour le mariage de ta sœur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, bon, voilà, c'est la fin de mon voyage, je vais reprendre le cours de ma vie, et puis, pourquoi pas, du coup, aller au Liban? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, avant de rejoindre l'Asie, j'ai passé 1 semaine à Beyrouth pour tester l'idée, justement, de mon plan professionnel. J'ai beaucoup aimé la ville, j'ai adoré la culture, etc. Mais en fait, il y a un truc qui a bugué en moi, c'est que j'ai senti que mon plan n'allait pas fonctionner comme j'aurais voulu et que j'allais pas venir m'installer au Liban après mon voyage. J'ai vraiment senti au fond de moi qu'il fallait que je continue de voyager, que j'étais pas prête à me poser, quand bien même que c'était une installation à l'étranger, ça n'était pas au fond de moi la bonne chose à faire. Et au final, j'ai eu raison parce que il y a eu des contestations qui ont commencé au mois d'octobre et clairement, si j'étais allée là-bas, je n'aurais pas pu faire grand-chose, j'aurais été complètement bloquée en fait. Donc j'ai changé d'avis. Quand j'ai vu ce qui était en train de se passer au mois d'octobre, j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, mince, c'était vraiment mon plan pendant tout mon voyage. Je vais aller au Liban au mois d'octobre, je vais aller au Liban après mon voyage. Et j'ai changé d'avis quelques mois avant et au final, c'était une très bonne chose. Donc comme quoi, il y a des hasards quand même qui sont assez troublants. Et du coup, quand je suis rentrée en France, je savais que je ne voulais pas rentrer définitivement et qu'il fallait malheureusement absolument que je trouve un plan pour partir le plus vite possible. Je suis vraiment rentrée, mais alors la mort dans l'âme. J'étais très contente de revoir mes proches, d'aller au voyage de ma sœur. J'avais une semaine de vacances qui était prévue, donc j'avais quand même des choses à faire en rentrant. Mais vraiment avec une seule perspective, repartir le plus vite possible. Et cette fois-ci, juste repartir en espérant ne pas avoir de billet de retour, ne pas avoir de durée en tête, etc. En fait, avant de rentrer en France, j'ai commencé à me mettre un peu en mode survie et à me dire, il faut que tu trouves un plan. Et donc, du coup, la seule chose qui m'est venue en tête, ça a été de pouvoir trouver un travail tout en voyageant, c'est-à-dire de devenir digital nomade. Et en fait, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai rencontré quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques-unes, qui étaient digital nomades. Et du coup, j'étais hyper curieuse, moi, quand je les rencontrais. Mais alors, pour moi, c'était la solution et c'était le high level du voyageur. C'est-à-dire que moi, quand je les rencontrais, pour moi, c'était des dieux vivants, en fait. Et du coup, j'avais les yeux qui brillaient quand je les rencontrais. Je leur posais plein de questions et j'aurais dit, j'adorerais faire ça, mais moi, je peux pas faire une formation juridique. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire comme travail à distance. Et plusieurs personnes m'ont dit, non, mais si tu veux continuer de voyager, tu trouveras une solution. Et tout le monde peut être digital nomade. C'est juste que peut-être qu'il faut se former, peut-être qu'il faut se reconvertir, peut-être que il faut faire des choix un peu compliqués. Il peut demander du temps pour certaines personnes, à part trouver des clients. Mais c'est possible, si tu en as envie, bats-toi pour le faire. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et en fait, je me suis renseignée avant même de rentrer, j'étais encore à Java à ce moment-là, je faisais des recherches en fait sur les différents métiers qui sont possibles de faire comme digital nomade. J'ai jeté mon dévolu sur la rédaction web parce que avec la formation juridique, j'avais quand même énormément l'habitude de faire de la rédaction. Et j'avais le sentiment que j'étais pas obligée de repartir à l'école, de faire une formation professionnalisante pour maîtriser au moins les bases ou le B.A.B.A. en fait du métier. Donc je me suis un peu auto-formée à grand renfort de lectures sur Internet, de tutos YouTube, de blogs, je suis allée sur des forums.
Est-ce que tu as fait une formation en particulier que tu recommanderais ou c'est un mélange un peu de tout ?
Non, j'ai pas fait du tout de faire formation. Je me suis vraiment, j'ai surfé sur le web et j'ai cherché toutes les informations possibles sur de quoi j'aurais besoin pour pouvoir être une rédactrice web avec un niveau au moins satisfaisant, basique pour commencer, tout en ayant bien en tête que ben, il allait falloir que je me fasse la main, que j'allais commencer tranquillement mais sûrement avec des prix, enfin des tarifs assez bas, mais au moins qu'il fallait que j'apprenne. Et du coup, je me suis inscrite sur tous les sites de freelance pour faire la rédaction web possible. J'ai créé mon statut de micro-entrepreneur alors que j'étais encore à l'étranger. Du coup, j'ai lancé tout ça en fait lorsque j'étais encore en voyage. Et en fait, un premier client m'a trouvé, mais alors vraiment sorti nulle part, en plein mois d'août, hein, m'a contacté en fait pour me proposer une mission.
Trop bien, mais comment il t'a trouvé alors ?
Alors, il y a un site qui est assez connu pour les freelances qui s'appelle Malt, M-A-L-T. Et en fait, là, le concept de ce site-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on crée son profil, un peu comme sur LinkedIn, et c'est le client qui nous contacte pour proposer une mission. Ce n'est pas à nous de prospecter ou de postuler pour une mission. Et du coup, en fait, ben, une personne d'une entreprise m'a contactée pour me présenter un peu de quoi ils avaient besoin comme mission de rédaction web. C'est pour rédiger du contenu informatif pour leur site, hein. Et elle avait une très bonne approche. J'ai trouvé qu'elle avait l'air très gentille, hein, mais ça me paraissait tellement sorti de nulle part. Hein. Ça faisait peut-être depuis 2 semaines que j'étais en train de me lancer dans mes démarches. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas déjà arriver. Ça m'a paru tellement irréel, ça m'a paru tellement, mais trop beau pour être vrai, que j'ai même mis 4 ou 5 jours à lui répondre. Et c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire en plus, parce que bon, si un client qui te contacte, tu essaies d'être réactif. Hein. Et du coup, je lui ai répondu en lui disant, bah, sur un malentendu, peut-être qu'elle n'a pas encore trouvé quelqu'un. On a commencé à discuter, on a eu un très bon contact. Hein, et en fait, ils m'ont demandé de faire un essai qui était rémunéré. Donc ça, c'était quand même assez, j'étais assez étonnée. J'ai trouvé ça cool. Du coup, j'ai vraiment rédigé un texte pour eux en conditions réelles. C'est vraiment sur un sujet type hein, que j'étais susceptible d'avoir à rédiger par la suite. Hein. Et en fait, j'ai fait ça mais vraiment dans les 2 derniers jours de mon voyage. Je me souviens, j'étais à Singapour. Hein. C'était ma dernière étape. J'ai envoyé mon texte et j'ai littéralement pris mon avion le jour même ou le lendemain après avoir envoyé mon texte d'essai.
Tu n'y croyais pas vraiment, en fait. Tu t'es dit, je vais envoyer ça, et puis voilà, comme ça, c'est fait.
Exactement. Et du coup, je suis rentrée en France, et en fait, j'étais à peine rentrée en France qu'ils m'ont recontactée pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé mon essai, qu'ils voudraient qu'on puisse se rencontrer. Ils voulaient savoir quand est-ce que j'étais à Paris. Et en fait, j'étais que 2 jours à Paris, juste avant de rentrer en Bretagne pour le mariage de ma sœur. J'ai dit, bah, écoutez, je suis juste dispo aujourd'hui et demain. Ils m'ont dit de venir le plus rapidement possible. En fait, 2 heures après, c'était bon. Donc, c'est-à-dire que 24 heures après être rentrée, je savais déjà que j'avais déjà au moins un client dans mon portefeuille hein, et qu'avec déjà une solution pour pouvoir repartir, ils étaient très flexibles. Je ne pouvais pas réaliser ce qui était en train de se passer en fait. Même quand je l'ai annoncé à mes amis et à ma famille, ils ont eu un temps de réaction un peu long parce que ben, je venais tout juste de rentrer et je leur disais déjà que je pouvais repartir si je voulais en fait.
Et justement, c'est intéressant, c'était quoi leur réaction par rapport à ça, au fait que tu dises, bah voilà, je vais repartir en voyage, j'ai trouvé cette solution en plus de faire rédactrice web. Ils ont réagi comment à ça ?
Alors, il y en a certains, je pense peut-être un peu mes amis, ils étaient déjà, parce qu'au final, je suis repartie tout juste 2 mois après être rentrée. Donc, 2 mois, ça passe très, très vite hein, quand on rentre d'un assez long voyage. Surtout que j'ai commencé à travailler très rapidement. J'étais déjà très occupée. Donc, ils étaient un peu surpris, un peu tristes, mais à la fois, ils étaient quand même contents pour moi. Enfin, je pense que tout le monde a été pris un peu de court, en fait, enfin, par la rapidité avec laquelle ça s'est fait et presque la facilité, en fait. Hein. Ma famille, je pense que mes parents étaient assez rassurés de savoir que j'avais une situation financière à nouveau tenable. Parce que ça, c'est un truc qui vivait un peu mal, hein, de savoir que j'étais en train de me balader un peu partout dans le monde, que j'avais pas de travail, pas de salaire. Pour eux, j'étais un peu genre, je sais pas, une saltimbanque.
Oui, ça leur fait peur, quoi, c'est normal.
Ils aimaient pas vraiment ça. Du coup, ma mère se doutait un peu que je voulais repartir. Hein. Et en fait, quand je lui ai dit qu'effectivement, j'allais repartir, son visage s'est décomposé. Mais quand je lui ai dit que j'avais un travail, ça l'a rassurée, en fait. Pour eux, c'est rassurant. Et voilà, maintenant, ben, ils savent qu'au moins, quand je rentrerai en France, je ne rentrerai plus la mort dans l'âme. Et que maintenant, je peux rentrer, repartir, comme bon me semble, le temps que j'ai envie de faire ça, en fait.
Et du coup, donc là, tu avais décroché déjà une cliente. Et est-ce que par la suite, du coup, tu as continué à prospecter? Ou alors, c'est pareil, tu as eu d'autres clients qui sont venus à toi? Et est-ce que ça te suffit aussi à voyager? Parce que peut-être qu'une cliente te suffit amplement pour continuer à voyager.
Alors, globalement, oui, si je voulais, ça pourrait largement me suffire parce qu'en fait, j'ai un petit peu choisi aussi la suite de mon voyage en fonction de l'argent en fait, que je pouvais gagner en fait, avec mes missions. Le coût d'un voyage n'est pas le même si on va aux États-Unis, si on va en Inde, par exemple. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de repartir en Asie parce que c'est quand même moins cher. Et c'est vrai que, vu que, de manière générale, le rythme de la vie est quand même un peu plus à la cool en Asie, je me suis dit, bon, pour l'adaptation digital nomade, ça sera peut-être un peu plus facile. Et c'est vrai que du coup, je pourrais juste en fait voyager avec un seul client, mais étant donné que j'ai envie de continuer de me former et j'ai envie d'écrire sur des sujets quand même assez variés, par exemple un petit peu sur le voyage ou sur le lifestyle, ou des fois je fais même des projets de traduction français-anglais ou anglais-français. Du coup, je prospecte un petit peu à côté pour trouver d'autres missions sur des plateformes, par exemple Commutework, qui est une plateforme internationale. Ou sinon, je regarde même ce qui se passe sur des sites comme sur LinkedIn ou sur l'APEC pour essayer de trouver autre chose.
Tu es en ce moment en Inde. C'est quoi tes prochains plans? Qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu as pour intention d'y rester, de continuer à voyager? Quels sont tes plans d'avenir? Pour le moment.
Oui, parce que ça peut tout le temps changer. Les plans sont faits pour être changés, ou même des fois, c'est encore mieux de ne pas avoir de plan au final. Du coup, en fait, j'ai commencé mon voyage en Inde par une formation pour être professeur de yoga. Donc, j'ai fait ça le mois dernier. C'est un truc qui m'est un peu tombé dessus. En fait, c'est une idée qui m'a traversée il y a quelques mois et j'ai profité en fait de venir en Inde pour le faire. Et du coup, là, ça va faire bientôt 2 mois que je suis en Inde. J'arrive dans le nord de l'Inde. Je prévois de me rapprocher progressivement du Népal où je vais refaire des trekking. J'ai vraiment super hâte de me retourner dans la nature, marcher, de retrouver un peu les montagnes, l'Himalaya. Je pense que ça va être génial. Et après, j'ai des envies qui sont un peu plus aventureuses parce que je voudrais repasser dans le nord de l'Inde et passer la frontière avec le Pakistan, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, voilà, j'ai un ami pakistanais que j'ai rencontré il y a quelques mois lorsque j'étais à Singapour qui m'a invité à le rejoindre. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, en fait, d'aller visiter le pays. Et ensuite, si tout se passe bien, parce que bon, pour le moment, c'est quand même un petit peu compromis, j'aimerais pouvoir passer en Iran, qui est juste à côté.
C'est dingue que tu sois passé vraiment d'un opposé à l'autre, quoi, d'un extrême à l'autre. J'ai l'impression que toutes tes peurs sont parties, quoi.
Ah, complètement. Franchement, là, maintenant, je me dis, mais sur un malentendu, tonton absolument tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivée en Inde, ça faisait 10 mois que, avant que j'aille en Inde, je me disais, j'adorais faire un road trip en moto en Inde. Sauf que je ne sais pas faire de moto, je ne sais pas comment je vais faire. Ben, 3 jours après être arrivée en Inde, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une moto qui m'a proposé de faire 2 ou 3 jours de voyage avec lui. Donc j'ai eu mon road trip en moto avec quelqu'un que je connaissais à peine. Et en fait, c'est pas un truc comme ça. Des fois, il faut juste demander et en fait, ça te tombe dessus. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer plein de trucs, en fait. Enfin, je pense que je vais faire une partie du Pakistan en couchsurfing. Enfin, voilà, maintenant, il y a plein de trucs comme ça qui me font envie. Pourquoi pas pour d'autres prochains voyages, parce qu'il va falloir que je retourne en France pour des voyages. Si cet été, j'aimerais bien peut-être faire un road trip sans avion. J'aimerais beaucoup retourner en Amérique latine aussi. Donc, pourquoi pas cette fois-ci plutôt me balader dans l'Amérique centrale. Pourquoi pas faire un trip, par exemple, du Mexique jusqu'à la Colombie. Voilà, j'ai plein en fait d'idées qui passent par la tête. Donc, je verrai bien en temps voulu sur quoi est-ce que j'ai envie de me lancer. Mais on va dire que maintenant, le champ des possibles est vraiment complètement infini, en fait. Quand j'ai une idée qui me passe par la tête, je me dis, ben, pourquoi pas, autant essayer. Et puis, on verra bien ce que ça donne, en fait.
Parce que c'est vrai que dans le texte que tu m'as envoyé, tu as écrit « À partir du moment où je me suis autorisé l'idée de prolonger cette vie nomade et à œuvrer en sa réalisation, tout s'est aligné avec une facilité déconcertante ». C'est ça en fait, c'est à partir du moment où tu t'autorises à vivre cette vie libre et un petit peu qui sort des chemins battus finalement, et bien les choses se mettent en place toutes seules quoi.
Non mais complètement, enfin c'est... Des fois c'est même un petit peu flippant parce que quand je rencontrais d'autres voyageurs ou même quand les gens autour de moi me demandaient mais tout s'est bien passé pendant ton voyage, t'as pas eu de problème. Alors oui on a des petites galères mais moi un an, j'espère que ça va continuer comme ça mais il m'est rien arrivé de grave. Là tu vois, je suis tombée malade pour la première fois d'un an de voyage il y a 3 semaines en Inde. Mais bon c'est l'Inde donc c'est... Voilà en fait mais à chaque fois j'ai eu l'impression que c'était vraiment... Enfin aide-toi et l'univers t'aidera en fait. À partir du moment où tu fais les choix de vie qui sont les tiens, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, en fait. C'est comme si on te venait en aide, en fait. Et ça, c'est vraiment le cas, alors que pourtant, ça a été très, très compliqué au début de me lancer dans la vie complètement nomade au mois de novembre. Enfin, en fait, quand on passe vraiment en mode voyage pour une durée indéterminée, même s'il y aura des passages en France, etc. C'est hyper flippant d'être autant libre, en fait, de se dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, à part voyager et travailler pendant ce voyage. Et me dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de mes journées, c'est-à-dire, est-ce que je vais aller explorer telle partie du pays, qui est-ce que je vais rencontrer, ou qui est-ce que je vais devenir, ou qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre, où est-ce que je serai dans même une semaine. Se dire que le champ des possibles est juste infini et tout peut arriver dans la vie, c'est hyper flippant au début, en fait, de se dire waouh, je vais être complètement libre dans ma vie, en fait. C'est vraiment un truc qui s'apprivoise, en fait. Et au début, c'est quand même un petit peu effrayant. Et honnêtement, après, c'est que du bonheur parce qu'on rencontre plein de gens qui nous aident. Et chaque problème, en fait, a ses solutions. On n'a même pas besoin de se creuser la tête ou de s'inquiéter pour ça. C'est vraiment, tout est surmontable, au final.
Ça me donne tellement envie de repartir.
Après, c'est vraiment un truc que je peux souhaiter à tout le monde, en fait. Enfin, je sais que chacun a ses rêves, en fait. Mais s'il y a des gens qui, au fond d'eux, qui portent vraiment cette envie-là, en fait, mais faites-le. C'est la plus belle chose que vous pourrez faire dans votre vie. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous offrir, en fait. Enfin, si votre rêve, c'est d'avoir une ferme à côté d'Annecy ou de fonder une grande famille ou même juste, je ne sais pas moi, d'ouvrir un magasin de porcelaine, mais allez-y, faites-le. Faites ce qui vous fait vibrer, en fait. Ce n'est pas parce qu'on voyage qu'il faudrait que tout le monde voyage, il faudrait que tout le monde parte ce rêve-là non plus. Il ne faut pas non plus être sectaire, en fait.
Bien sûr. Du coup, j'ai ma dernière question, qui est la question de fin. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la vraie vie ?
Aïe.
Elle est compliquée, cette question.
Bah, elle est compliquée, surtout qu'on ne me l'a jamais posée. On me l'a plutôt, reprochée, en fait. C'est reprocher de ne pas être dans la vraie vie ou des choses comme ça. On passe pas un très bon moment quand on entend quelque chose comme ça. Parce que quand on voyage, on a quand même l'impression d'être un peu dans du vrai. Parce que c'est quand même un gros retour à l'essentiel. Du coup, moi, j'aurais quand même tendance à dire que, bah, en fait, la vraie vie, c'est... La réponse va peut-être paraître un peu fataliste ou un petit peu grave. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, la vraie vie, c'est juste ce qui se passe entre notre naissance et notre mort, en fait. C'est-à-dire que c'est à toi de décider après qu'est-ce que tu veux faire pendant cette période-là. C'est nous qui avons le choix, en fait, de mener certaines explorations intérieures comme extérieures, d'y donner du sens, de trouver de la joie dans ce qu'on fait. Pour certains, ça va être par exemple de s'aligner peut-être avec leurs rêves ou avec leurs désirs profonds. Pour d'autres, ça va être par exemple de concrétiser certains projets. Pour d'autres, ça va être juste de vivre une vie sans encombre matériel. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Enfin, moi, j'aurais juste tendance à dire que la vraie vie, c'est juste celle qu'il y a ici et maintenant, en fait. C'est juste de vivre maintenant et de ne pas imaginer ce qui pourrait se passer demain, de ne pas essayer d'avoir peur d'un futur qui n'existe pas encore, de juste profiter du moment présent, en fait. Enfin, d'être juste content d'être en vie. Pour moi, c'est un peu ça, en fait, la vraie vie, je trouve.
Moi, je me reconnais complètement dans ta définition.
Parce que, franchement, je pourrais dire, tu vois, surtout que des fois, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, non, mais la vraie vie, c'est de partir à la découverte du monde, c'est d'être heureux, c'est de réaliser. Non, mais oui, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que si, mettons, la définition, c'était ça, parce que pour moi, il n'y a pas de définition, mais si, par exemple, je prenais quelque chose comme ça pour la vraie vie, est-ce que ça voulait dire que la vie que je menais avant, c'était pas la vraie vie ? Non, parce que tout s'est enchaîné d'une certaine manière que aujourd'hui, je suis ici, en fait. Donc, si j'avais pas eu des moments compliqués dans ma vie, si j'avais pas fait des erreurs, si j'avais pas vécu complètement à côté de mes pompes pendant autant d'années, je serais pas ici aujourd'hui. Du coup, des fois, il faut prendre les mauvais chemins, il faut arriver dans des impasses avant de trouver un meilleur chemin, de trouver celui qui est le nôtre, en fait. Il faut juste être un petit peu curieux et voilà, on apprend plein de trucs comme ça, de cette manière-là.
C'est génial. Merci beaucoup, Aurore.
Merci à toi, en tout cas.
Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de De Vraie Vie. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale, je t'invite à me le dire en me laissant quelques étoiles et un commentaire. J'adore ça, les commentaires. Sur ton application de podcast préférée. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux me suivre sur Instagram @devraievie. Je te dis à très bientôt.